Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce mardi 14 mai 2019. Ce soir s'ouvre le Festival de Cannes avec les vampires de Jim Jarmusch. Et nos équipes, avec à leur tête Antoine Guillot, sont déjà arrivées sur place pour nous tenir au courant jour après jour de cette 72e édition et de son riche et alléchant programme. Mais franchement, pas besoin d'aller sur la Côte d'Azur pour célébrer le cinéma. Aujourd'hui, au programme du Réveil culturel, je vous propose l'exposition « Quand Fellini rêvait » de Picasso II, la musique de Nino Rota. L'exposition a lieu à la Cinémathèque française à Paris jusqu'au 28 juillet. Pour nous en parler, l'historienne de l'art Audrey Norcia, la commissaire de l'exposition.
Le Réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Audrey Norcia.
Bonjour Toufik Hakem, merci de votre invitation.
Alors justement, puisqu'on parlait de Cannes, de l'ouverture du festival de Cannes ce soir, Fellini aurait pu y croiser Picasso à Cannes, ou à Paris, ou à Rome, trois villes si présentes dans la carrière et du peintre et du cinéaste, mais finalement ils se sont jamais croisés je crois.
Alors, puisque vous parliez de Cannes, il y a eu une rencontre, deux rencontres manquées, puisque Fellini et Picasso se sont retrouvés à Cannes en même temps, en mai 1957, puis en mai 1961. En 1957, Fellini est là pour présenter Les Nuits de Cabiria. Le public n'apprécie pas trop ce film, mais Giulietta Masina, son épouse, reçoit le prix d'interprétation féminine. L'un des soirs, durant le festival, il se promène en compagnie de Georges Simenon, qui aperçoit dans la rue Picasso. Et Simenon veut se faire l'intercesseur de Fellini à Picasso, lui propose d'aller à la rencontre du peintre. Malheureusement, à ce moment-là, Picasso est happé par une foule de journalistes et de paparazzi, et donc Fellini ne peut approcher Picasso. Mais il note son regard, des yeux marrons, perçants comme des lasers. 4 ans plus tard, toujours au Festival de Cannes, en 1961, Fellini monte les marches à l'ouverture du festival en compagnie de son épouse. L'année précédente, il a reçu la Palme d'Or pour la Dolce Vita, donc en 1960. Il monte ses marches, intimidé, malgré la palme reçue l'année précédente. Et quelques minutes après, Picasso, à son tour, monte les marches. Et c'est une archive de l'INA qui m'a permis de faire donc cette connexion, de révéler donc ainsi au public que Fellini et Picasso ont été dans un même lieu, au même endroit, en même temps.
Mais on ne sait pas s'ils se sont parlé, s'ils se sont rencontrés.
A priori, il n'y a pas eu d'échange parce que certainement Fellini en aurait parlé dans ses interviews qu'il a données par la suite.
Quand Fellini rêvait de Picasso, c'est le titre de cette exposition, c'est quoi? C'est comment Fellini a été inspiré par les tableaux de Picasso, ou comment les deux hommes partageaient les mêmes rêves, les mêmes fantasmes, bien sûr, les femmes, le cirque, si présentes dans l'exposition, on va en parler d'ailleurs Audrey Norcia, mais à l'origine de cette idée de faire se rencontrer ces deux créateurs.
Ben donc l'origine de cette exposition, ce sont bien les rêves de Fellini. Picasso apparaît à Fellini à 3 reprises au moins, on peut même en noter 5, mais en tout cas 3 reprises qui sont très identifiables, puisque Fellini a rapporté par le dessin ses rêves, où Picasso lui apparaît. Et Picasso se révèle à Fellini dans ses rêves, dans ce monde nocturne très imagé chez Fellini, à des moments où il traverse des crises artistiques et même des dépressions. Donc des moments
Picasso
clés.
À la rescousse, donc.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est Picasso, le grand artiste, l'artiste absolu, le démiurge. C'est ainsi que Fellini envisage Picasso. Picasso est là pour l'aider à avancer dans sa carrière, dans sa carrière artistique, cinématographique, mais aussi dans sa vie personnelle.
Pourquoi dans sa vie personnelle?
Parce qu'il traverse des moments de difficulté, il est pris entre sa vie conjugale, sa vie amoureuse.
Non, vous voulez dire qu'au-delà même de l'artiste, Pablo Picasso, l'homme, représentait un exemple pour Federico Fellini?
Ah oui. à un tout point de vue, tout à fait. C'est Picasso à la fois l'artiste, le grand génie du XXe siècle, celui de toutes les révolutions, mais c'est aussi l'homme, Pablo. Celui qui a eu tant d'aventures, tant de conquêtes féminines. Bien entendu, c'est tout ce panel, tous ces visages qui intéressent et qui interpellent Fellini.
Alors, comment résumer ces affinités dans une exposition? Qu'est-ce qu'on y voit, Audrey Norcia, dans cette exposition « Quand Fellini rêvait de Picasso » ?
Alors, on y voit bien entendu beaucoup de femmes. Puisque pour Fellini comme pour Picasso, la femme est l'entité première, l'essence même de leur art. Donc elle est démultipliée sous toutes ses facettes, dans tous ses visages possibles. C'est la femme mère, c'est la femme idéale, la muse, la femme déesse. Dans le cinéma de Fellini, c'est Anita Ekberg, c'est Claudio Cardinale, c'est Anouk Aimée, c'est Giulietta Masina, bien entendu.
Puis est-ce que c'est autant de personnages de femmes qu'on retrouve dans l'œuvre de Picasso?
Oui. Évidemment, oui.
Et qui sont exposés parce qu'il y a des tableaux de Picasso
bien sûr.
Cette exposition.
Il y a des tableaux, il y a des gravures très belles et pour certaines inédites. Donc les composantes féminines, aussi bien félinienne que picassienne, se rencontrent. C'est un univers commun, une sorte de harem où Picasso et Fellini règnent en maître, il faut le dire ce qui est. Ou parfois aussi la femme peut être menaçante. Et là, ça dérange un peu l'artiste créateur.
Et ça s'exprime comment?
Par des scènes de domptage, par exemple chez Fellini. Ou Marcello Mastroianni, qui est le double de Fellini à l'écran, on le sait bien, doit se munir d'un fouet pour dompter toutes ces créatures sublimes, menaçantes, monstrueuses aussi. Et chez Picasso, c'est évidemment l'apparition de la figure du Minotaure.
Quand Fellini rêvait de Picasso, c'est à la Cinémathèque française à Paris-Bercy jusqu'au 28 juillet. Alors l'exposition donne la belle part au livre, le fameux livre des rêves de Fellini. Parce que Fellini dessinait, notait ses rêves.
Tout à fait. Ouais. Donc à partir de 1960, au moment donc où Fellini a rencontré le succès qu'on connaît pour la Dolce Vita, il se sent un tournant de sa carrière. Il veut dire autre chose avec son cinéma. Il veut sortir de la veine néo-réaliste qu'il a mis en scène d'un point de vue cinématographique. Il s'en détache de façon radicale avec la Dolce Vita, mais il veut surtout maintenant, à partir de ce film qui va émerger 8 et demi en 1963, il veut dire autre chose et il veut parler de lui-même, donc sur un mode autobiographique et onirique.
Et introspectif.
Et c'est à partir de là qu'il se met à rêver de Picasso. Donc c'est le premier rêve. Le 22 janvier 1962, donc au moment où Fellini est en train de réfléchir à 8 et demi, il en appelle à Picasso. Et on voit donc Fellini qui est invité à la table de Picasso sur la Côte d'Azur. Giulietta Masina est aussi assise aux côtés de Fellini, donc tout ça dans les rêves, hein, je le rappelle. Et on sait tout ça car Fellini donc retranscrivait ses rêves par le dessin. Et on connaît aujourd'hui tous ses rêves grâce à un volume qui réunit 30 années de rêves et donc de dessins qui s'appelle « Le livre de mes rêves » dont vous parliez tout à l'heure. Et Fellini donc suivait une psychanalyse avec un professeur d'obédience jungienne, le docteur Ernst Bernhardt. Et c'est lui qui l'a incité en fait à retranscrire par le rêve ses dessins, parce qu'il savait que Fellini avait un coup de crayon génial, puisqu'il a commencé sa carrière comme caricaturiste. Et donc voilà, on entre dans cette de façon un peu indiscrète dans les rêves de Fellini par le dessin, et on voit l'apparition de Picasso à 3 reprises par le dessin, mais à 5 reprises au moins, puisque quand on coupe tous les entretiens que Fellini a pu donner au cours de sa carrière, notamment entre les années 80 jusqu'à la fin, jusqu'à sa disparition, il parle très fréquemment de Picasso, et Picasso apparaît apparemment au moins 5 fois dans ses rêves.
Et est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que Picasso parlait de Fellini? Est-ce qu'on en trouve des documents ou des témoignages qui permettent de nous dire que c'était une admiration réciproque entre les deux artistes, Fellini-Picasso?
Alors, malheureusement ou heureusement, non. Il n'y a pas de...
Pourquoi heureusement? Malheureusement, j'aurais compris, mais pourquoi heureusement?
Parce qu'il y a certainement, dans cette exposition, la part du rêve est importante. Quelque part, qu'ils ne se soient pas rencontrés, c'est peut-être mieux. Dans le sens où...
Mais on ne sait pas si Picasso, par exemple, a vu les films de Fellini.
Alors, on ne sait pas. Mais on sait que Picasso avait un intérêt très prononcé pour le cinéma. Dès son arrivée à Paris, il fréquente les salles de cinéma. Il va voir des films populaires. Il va voir les films de ses amis de l'avant-garde, des courts-métrages, des choses très expérimentales. Et puis, il devient, à partir des années 50, il devient le sujet de films. Le plus connu étant le Mystère Picasso de Clouzot, qui sort en 56. Et puis, il s'installe sur la Côte d'Azur en 55, à Cannes même, à la Villa de la Californie, aux côtés de Jacqueline Groc. Et il est invité au Festival de Cannes. Donc, il voit des films, il voit les films qui lui sont contemporains. On ne peut pas dire avec certitude qu'il a vu des films de Fellini, mais étant un esprit extrêmement curieux, Picasso a peut-être vu du Fellini.
En tout cas, s'il a vu ce film particulier de Fellini, il a dû s'y retrouver, Picasso. Quand Fellini rêvait de Picasso, c'est à la Cinémathèque française à Paris-Bercy jusqu'au 28 juillet. De tous les films de Fellini, Audrey Norcia, il y a bien un film qui a dû émouvoir plus que d'autres Pablo Picasso, parce qu'on retrouve un peu l'univers de Picasso. Il est au centre de cette exposition à la Cinémathèque française de Paris jusqu'au 28 juillet, quand Fellini rêvait de Picasso.
Alors oui, il y a un film qui aurait pu marquer Picasso s'il l'a vu, hein, tout ça reste très hypothétique.
Ouais. Il aurait pu le voir.
Ouais. Il aurait pu le voir. C'est le Satyricon de Fellini, où Fellini met en scène une antiquité décadente, en faisant le choix de réaliser des décors, des costumes, notamment les décors sont très importants, selon un mode picassien. C'est-à-dire que Fellini, pour parler de l'Antiquité, va aller puiser dans l'art antique, qu'on connaît, les fresques pompéiennes, la sculpture grecque et romaine, mais il va le faire selon le mode de Picasso, selon son style classique du Picasso des années 20.
Motore,
fai ferma lì dietro.
Gioia, la testa un po' più bassa, un po' più... Ecco, guarda qua, sorridi.
Partito!
Vai.
Guarda in alto, Allegra, la testa più alta.
280 terza.
Oh. Viva Goyo!
Ça, c'est un document exceptionnel. Fellini lui-même sur le tournage de son film Satyricon, c'était en 1969. Film effectivement où les deux univers, les deux styles peuvent se mélanger, se compléter.
S'entremêlent, oui, tout à fait. Et on retrouve, donc c'est la première partie de l'exposition qui accueille le visiteur, intitulée Les Voyages Antiques. Et c'est une antiquité rêvée, encore une fois, par Fellini, mais aussi par Picasso. Parce que ces deux artistes ont regardé l'antiquité non pas comme une période historique circonscrite avec un début et une fin, mais comme une façon de parler, de rêver, d'envisager, de fantasmer notre présent à nous, contemporains. Donc ces figures divines, ces femmes très belles, très nobles, tantôt Vénus, tantôt une Ménade, ces faunes, ces satyres, en fait ce ne sont que des personnages du quotidien de Fellini et de Picasso. Et tout ça est très, à mon sens, très, très palpable, très visible dans l'exposition au travers des œuvres de Picasso qui sont montrées en correspondance avec les films, les photographies de plateau de Fellini, du satyricon.
Et même des extraits de films et des costumes
tout
d'ailleurs,
à fait, oui.
Des costumes, des films films de Fellini. Quelles sont les toiles de Picasso présentes dans cette exposition quand Fellini rêvait de Picasso?
Alors, il y a des huiles sur toile, il y a des œuvres au dessin, des sanguines, des eaux-fortes, des choses inédites. Et le parti pris a été de couvrir... comment dire, d'embrasser une chronologie assez vaste de Picasso, des années 20 aux années 60, 70 même, puisqu'on a des eaux-fortes de 1971, c'est-à-dire 2 ans avant la mort de Picasso. Et ce sont des eaux-fortes qui traitent du thème de la prostitution des maisons closes. Donc vraiment quelque chose qui taraudait Picasso jusqu'à la fin de son existence, ce désir sexuel. Et donc l'idée est de balayer non seulement le corpus de Picasso, qui est énorme, vaste, comme on le sait, mais aussi d'essayer de coller au plus près au film de Fellini. C'est-à-dire se dire que à ce moment-là, Fellini réalise tel film, qu'est-ce que Picasso a produit, qu'on pourrait mettre en parallèle, où il y a vraiment une affinité qui se crée entre les deux œuvres.
Fellini sous influence de Picasso?
Alors oui, sous influence en quelque sorte, même si il y a un documentaire qui ouvre l'exposition, qui donne la parole à Fellini, dans lequel il dit... est-ce que j'ai été influencée par une vision picassienne est-ce qu'il y a une vision picassienne sur mes films? Dis non, je ne crois pas. Mais l'exposition n'est pas là pour démontrer quelque chose, mais plus pour faire ressentir deux mondes communs, des échanges entre Fellini et Picasso à travers le temps, les espaces, puisqu'ils ne se sont pas rencontrés. Tout ça est de l'ordre du rêve.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Picasso célébré partout dans les musées cette année en Méditerranée, y compris par la Cinémathèque française, puisque à Paris, jusqu'au 28 juillet, la Cinémathèque française nous propose l'exposition « Quand Fellini rêvait de Picasso ». Et je suis avec la commissaire de l'exposition ce matin, Audrey Norcia, et il y a un moment très festif dans cette scène qui rend hommage aux deux artistes dans cette exposition. Donc, c'est bien sûr le cirque, le chapiteau, parce que et Fellini et Picasso ont été très très intimement liés aux gens du cirque, à la représentation du cirque.
Ah oui, tout à fait. Le cirque occupe une place centrale dans l'univers créatif, artistique de Fellini et Picasso, et évidemment dans l'exposition, puisque c'est vraiment la pièce où on peut circuler et se promener d'un endroit à l'autre. C'est central de façon architecturale dans l'exposition, de façon lumineuse aussi, parce qu'on a voulu recréer cette ambiance festive. Fellini et Picasso ont fréquenté le cirque et Fellini dès son enfance. C'est vraiment un monde qui l'a habité, qui s'égrène comme ça de film en film. Et il avait cette phrase très belle, je trouve, qui dit que s'il n'avait pas été réalisateur, il aurait aimé être le directeur d'un grand cirque. Et pour lui, le Studio 5 de Cinecittà n'était autre que ce grand cirque, cette espèce de diffusion d'effervescence permanente, entourée de ses collaborateurs, de ses acteurs, de ses figurants, des techniciens. C'était ce grand cirque et lui, le génial Monsieur Loyal. Et Picasso, de la même façon, alors Il travaillait évidemment de façon plus calme, plus intimiste dans son atelier, mais il aimait recevoir des visites de disciples, parfois d'amis. Parfois, il avait besoin de solitude, comme Fellini aussi d'ailleurs. Mais il aimait cet esprit festif, l'esprit burlesque du cirque, les déguisements, la façon de se mettre en scène. Et puis, la bohème, évidemment. Ce sont vraiment des fils qu'on a essayé de tirer dans cette exposition, de démontrer que Fellini et Picasso font partie d'une même famille. Donc cette famille du cirque, de la représentation et du rire.
Malgré la différence d'âge, parce que cette différence d'âge me permet de vous poser cette question, Audrey Norcia, puisque vous venez de dire que Fellini, et c'est vrai, avait déclaré que s'il n'était pas cinéaste, il aurait aimé être directeur d'un cirque, mais si le cinéma n'était pas là à son époque, j'allais dire pile à son époque, à Fellini, est-ce qu'il n'aurait pas souhaité être peintre, lui qui a commencé à être dessinateur ?
Alors en effet, il en parle de façon très récurrente dans ses entretiens. Alors à côté de la passion pour le cirque, qui pour lui est l'essence de l'art, la pantomime, cette espèce d'origine du cirque et de l'art de la scène. À côté de ça, il y a la peinture pour lui. La peinture occupe une place très importante dans son imaginaire. Et c'est pas, comment dire, ce n'est pas sans importance qu'il rêve de Picasso. C'est parce que c'est vraiment la peinture est l'autre volet, l'autre aspect de son imaginaire et de sa création. Et il a été fasciné au moins dès son adolescence, il le dit, petit, il réalisait des marionnettes, il modelait des choses, donc il avait déjà ce goût manuel pour la création. Et étant adolescent, il se rêvait peintre. Il se rêvait habitant un atelier avec des modèles, le peintre un peu à la Picasso.
Ça c'est pour Fellini. Est-ce que Picasso, s'il était né quelques années plus tard, il aurait adopté le cinéma comme un art majeur, il aurait fait du cinéma, comme on dit.
Alors, il a fait du cinéma dans le sens où c'est carrément mis en scène,
ouais.
À travers des photographies. En tant que peintre, il l'a fait. Il l'a fait, c'est aussi un aspect assez original, inédit de l'exposition à la Cinémathèque française. C'est que on sait que Picasso a été l'objet, l'acteur, le sujet de tout un tas de films à partir des années 50. L'exposition montre des extraits de la visite à Picasso de Paul Ezart, du mystère Picasso de Clouzot. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Picasso a été co-réalisateur d'un film, d'un court-métrage, commandité par Henri Langlois, avec aux commandes donc Picasso et Frédéric Rossif.
Ah d'accord, c'est une vieille histoire avec la Cinémathèque. Donc.
Exactement, exactement. C'est retour à la maison, retour aux origines pour ainsi dire. Alors malheureusement, cette bobine a disparu, mais dans le malheur, il y a quand même des choses belles qui en ressortent. Il y a tout un tas de photographies réalisées par Georges Sadoul et par Robert Picot, qui étaient sur le tournage de ce petit film, de ce court-métrage, qui s'était donc produit à l'atelier de Picasso, qui se trouvait alors à Valoris, à son atelier de céramique.
Quand Fellini rêvait de Picasso, c'est à la Cinémathèque française, à Paris, jusqu'au 28 juillet. Est-ce que cette exposition fait partie de ce cycle consacré à Picasso depuis l'année dernière, enfin Picasso en Méditerranée? Plusieurs musées ont trouvé des thèmes pour mettre à l'honneur Pablo Picasso.
Alors de façon Détournée, oui. Alors, parice que cette exposition ne s'inscrit pas, pour ainsi dire, dans le cycle organisé par le Musée Picasso Paris, mais la Méditerranée est omniprésente dans l'exposition, puisque c'est un autre lien, évidemment, entre Fellini et Picasso, à travers l'Italie, à travers Rome. Picasso adorait aller se reposer, se revivifier, se revigorer sur la Côte d'Azur, et quand il était à Antibes, il disait qu'il n'y avait que là-bas qu'il avait cette espèce d'invasion dans son esprit des faunes, des satyres, des centaures et des ménades. Donc il y a évidemment, entre l'un et l'autre, un goût partagé pour la Méditerranée, pour l'Antiquité, pour l'archéologie et pour la Dolce Vita.
Voilà, merci beaucoup Audrey Norcia. Je rappelle que vous êtes la commissaire de cette exposition « Quand Fellini rêvait de Picasso ». On se retrouve demain pour parler du Festival de Cannes, cette fois-ci à travers une fiction, une drôle de fiction d'ailleurs. Je serai avec Éric Garandeau. Passez une bonne matinée sur France Culture. Les petits matins continuent.